des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans Le Temps des Écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle avec une légende de la littérature dont la voix a été restée bien silencieuse pendant presque 10 ans et que nous avons le plaisir d'entendre dans Le Temps des Écrivains sur France Culture. Bonjour, Bret Easton Ellis.
Bonjour.
J'en profite pour saluer votre interprète, l'excellent Michel Zlotowski.
Bonjour.
Alors, Bret Easton Ellis, on est dans votre suite, je vais dire suite impériale, presque suite impériale. Quand on prononce votre nom, on pense évidemment à ces événements, que dis-je, à ces coups de tonnerre dans le ciel littéraire qui ont été moins que zéro, portrait à la pointe sèche et à l'acide de la génération X, shooté au lithium comme à MTV, ou à American Psycho, qui vous a valu à l'époque des appels à l'interdiction de votre livre et qui racontait la dérive de Patrick Bateman, trader et serial killer, qui avait pour idole un certain Donald Trump, cité 40 fois, je crois, dans le livre, même comme le père dont on rêve. Il représentait quoi à l'époque de American Psycho, Donald Trump ?
Eh bien, quand j'ai mené cette recherche pour American Psycho, quand j'étais à New York, où j'y suis allé en 87, 88, 89, j'y vivais, Donald Trump était un personnage enthousiasmant. Beaucoup des gens que j'interviewais à Wall Street l'ont considéré comme un héros. Quelqu'un qui voulait s'élever à sa hauteur, être Donald Trump. Et je trouvais ça très étrange. J'avais lu son livre « L'art du deal ». J'en connaissais beaucoup sur Trump. Je savais qui était Roy Cohn. Je connaissais les pratiques commerciales douteuses de son père. Je savais que c'était un petit peu un clown, lui. Et pourtant, c'était un personnage à laquelle on voulait arriver. Et ça ne me semblait pas étrange que Bateman soit obsédé par lui et que Donald Trump soit le père qu'il n'avait pas eu. Et donc, dans le livre, Patrick Bateman est obsédé par Trump. Il veut savoir quels sont ses restaurants favoris, les pizzerias où il allait. Et il va à la Trump Tower vers la fin du roman et il la regarde, il l'admire comme vraiment quelque chose qui serait une glose dans le soir. Je ne pensais pas que j'avais une idée de l'avenir, des pressentiments, non. Mais c'est la raison pour laquelle il a été mentionné près de 40 fois dans le roman.
On en reparlera de Donald Trump parce que c'est l'un des personnages au fond de White, votre nouveau livre qui paraît chez Robert Laffont, qui est traduit par Pierre Guglielmina. Un livre qui n'est pas un roman, mais un essai extrêmement tonique, fin, ironique aussi sur l'ambiance plutôt mortifère et hystérique, c'est ce que vous dites, hein, qui selon vous règne aux États-Unis sous l'emprise d'un politiquement correct féroce qui menace non seulement, écrivez-vous, le jugement, le sens commun, mais bientôt la liberté. Et sous l'emprise aussi du poids dans la culture des millennials, ces jeunes hommes et femmes nés entre 1980 et 2000, que vous appelez la génération pleurnicharde ou chochotte, accro aux réseaux sociaux et menaçant d'ailleurs à cause des réseaux sociaux. D'abord, je voudrais savoir, Bret Easton Ellis, pourquoi avez-vous décidé, au fond, de garder le silence éditorial, littéraire, pendant 10 ans?
Eh bien, j'ai écrit mon dernier roman en 2009. Ça a été publié en 2010. Je n'avais pas planifié l'écriture de ce livre. C'était d'un accident. Suite impériale.
Oui.
En raison d'une crise de la quarantaine, bon, je pensais que Lunar Park serait mon dernier roman. Et je voulais toujours travailler au cinéma. Je voulais faire des films. Et en raison de l'ascension de la télévision, je voulais faire ma propre série télévisée. J'ai passé donc de nombreuses années à travailler heureusement, avec bonheur, sur des projets. Certains qui ont abouti, d'autres pas. Mais avant de le savoir, de m'en rendre compte, la décennie était passée. Et mon agent, mes éditeurs m'ont demandé, mais pourquoi, au lieu d'écrire un roman, tu n'écris pas un essai avec ce que tu as déjà fait? Et je me suis dit, non, moi je voulais pas faire une collection. Et ils m'ont dit, attends, mais tu fais des podcasts, peut-être qu'il y a un livre là-dedans. Et ça, c'était intéressant. Et ça a commencé à passer par les ouvertures des podcasts, et j'ai vu des thèmes qui apparaissaient et réapparaissaient. Et c'est comme ça que White a commencé. Une grande partie de White vient des podcasts, de ce dont je parlais dans les podcasts. Et oui, c'est un essai étendu en 8 sections sur ce que je pense, sur ce que j'ai pensé au cours de ces dernières années, et comme j'ai vu le pays changer, et comme je me suis vu moi-même changer, de façon assez surprenante.
Pour qu'on explique bien donc ce podcast que vous tenez, c'est un podcast dans lequel vous recevez qui vous voulez, et qui s'ouvre toujours par une sorte de journal de bord sur l'Amérique, sur vos discussions avec vos amis. C'est ça un petit peu le principe, c'est ça un petit peu la matrice de White.
It is.
And, exactement. Et même dans le chapitre d'ouverture, où je parle de mon enfance, je parle des films d'horreur, ça vient d'un podcast avec Alexandre Aja, qui était sur le podcast. Et c'est de là que vient cette ouverture. Je pense que si je fais une suite à ce livre, je vais plonger plus profondément dans les livres qui m'ont véritablement influencé pendant cette décennie des grands films. Mais oui, c'est vrai. L'idée de ce livre était vraiment déclenchée par les podcasts et les conversations que j'ai eues avec les gens et les changements d'Amérique. Moi, j'ai commencé ce podcast, mon podcast, pendant l'administration Obama. Et à la fin de White, c'est l'été 2018, et on était avec Trump déjà depuis 2 ans. Mais donc, il y a une narration, il y a un narratif dans ce livre.
Alors, je le dis pour les auditrices et les auditeurs français, c'est vrai qu'on vous a vu, il n'y a pas eu de livre, mais on vous a vu vous déployer comme scénariste pour le cinéma, de Canyons, de Paul Schrader, vous étiez scénariste, même réalisateur avec The Deleted, une web-série que vous avez réalisée en 2016. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le cinéma ou dans les séries qui ne vous intéressait plus dans la littérature ou que la littérature ne vous apportait plus, comme si les mots ne suffisaient plus et qu'il fallait l'image?
Well, you know, I have written what I think are...
J'ai écrit, je pense, beaucoup de romans. 7 romans, c'est beaucoup. Certains sont assez longs. Je pense avoir exploré tout ce que je voulais explorer dans ce médium, le médium du roman. Et toujours, toujours, depuis que j'étais à l'école, je voulais m'impliquer dans le cinéma. Je voulais être dans un autre médium. Pendant de nombreuses années, au lycée et à la fac, j'étais dans des groupes rock. Je pensais vivre ma vie en tant que compositeur. Je n'étais pas simplement intéressé à devenir romancier. J'ai écrit des romans, c'était fascinant. J'ai encore du plaisir jusqu'à un certain point. Et j'en ferai peut-être encore.
Ouf.
Mais peut-être, peut-être. Mais bon, écoutez, comme mon petit copain me l'a dit, certains films ont été tirés de tes livres, tu as dirigé des séries télévisées, tu as fait des publicités. Est-ce que tu peux faire quelque chose de mieux? Et peut-être c'est les romans, peut-être que tu devrais y revenir. Donc, l'écriture de White était une expérience littéraire, et je ne l'ai pas fait depuis une décennie. Donc, mettre White, assembler White, c'était comme écrire un roman. Il y a une voix, il y a un arc narratif, on veut que les gens continuent de tourner les pages, il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin, et ça déclenche quelque chose. Et je peux peut-être revenir à l'écriture d'un roman. Je ne sais pas si ce sera le même genre de roman que j'écrivais précédemment, mais je pense que ça pourrait se faire.
Moi, vous m'avez quand même inquiété parfois, Bret Easton Ellis, par rapport à ce roman, parce que White, je le redis, même si vous dites que c'est comme un roman, au fond, c'est plutôt une suite d'essais qu'on peut lire comme un journal de bord, qu'on peut lire, il y a certains dialogues aussi, donc ça pourrait se rapprocher d'une forme romanesque, mais ça reste un essai par rapport au roman qui était Moins que Zéro, Lunar Park ou American Psycho. Mais quand on vous lit, quand on écoute ce que vous dites, Bret Easton Ellis, on écoute par exemple des phrases comme ça. Parfois, je me dis que c'est parce que le roman n'est plus autant un sujet de conversation qu'auparavant. Parmi mes amis, plus personne ne parle, ni ne lit de romans. Même des romanciers que je connais ne parlent plus de romans. Et c'était peut-être pour ça que j'étais moins enthousiaste à l'idée d'en écrire, comme si la forme romanesque était un peu dépassée. Et ça, en fait, moi, ça m'inquiète un peu quand je lis ça, parce que on lit dans White que quand vous écriviez Moins que Zéro, je vous cite, Je n'ai jamais succombé à la tentation de donner au public ce que je croyais qu'il aurait peut-être voulu. J'étais le public et j'écrivais pour me faire plaisir et me soulager de la douleur. Du coup, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas lui qui a capitulé, finalement ? Les gens seraient moins intéressés par le roman, donc j'en fais plus. Mais au fond, quand on est écrivain, on s'en fiche du public.
I think that the novel is in
je pense que le roman est en un lieu très différent d'où il était quand j'ai commencé, concernant le public, concernant l'information et l'importance de l'information. Il y a une grande différence entre la publication de Moins que Zéro en 85 et publié Moins que Zéro aujourd'hui. Je ne sais pas si ça aura l'effet d'American Psycho, par exemple, ou même de Lunar Park, qui semble encore être un roman vaguement de l'époque analogique et pas de l'époque numérique. Et je me demande souvent s'il y a un lien entre mon manque d'intérêt dans le travail sur le roman aujourd'hui et la façon dont ils sont reçus. Et ça me manque, ces conversations avec les amis, avec la famille, au sujet du roman d'aujourd'hui. Mais je lis des romans contemporains avec beaucoup de plaisir. C'est bien. Mais je sens, pour ma propre exploration, que j'en ai fini avec le roman jusqu'à un certain point. Et je ne sais pas où l'amener après Lunar Park. Je pense que Lunar Park et Suites impériales sont des exemples de désagrégation du roman, un commentaire sur le roman. Que se passe-t-il lorsqu'un romancier commence à le faire? On peut le faire une fois ou deux fois, mais si on le fait trois, quatre, cinq fois supplémentaires, je sais pas, je veux pas être cet écrivain-là. Mais à nouveau, la notion de vouloir faire de films, vouloir passer à un médium différent, ça m'a beaucoup attiré, et ça existe encore. Mais ça me manque cette idée du roman. Mais le roman, c'est pas au centre de la conversation aux États-Unis. Et peut-être que c'est pas ça, mais ça pourrait être la raison pour laquelle je me suis éloigné de ce médium-là.
Alors c'est vrai que vous parlez souvent, quand vous parlez de vos romans, des millennials, hein, vous expliquez que au fond, ils ne lisent plus, ils sont rivés devant leurs écrans, ça ne les intéresse plus. Vous avez même cette phrase, le roman tel que nous l'aimons n'est plus à la portée des millennials parce que c'est peut-être trop long, ils n'arrivent plus à se concentrer. Et pourtant, Bret Easton Ellis, quand on voit certains millennials, même certains enfants, quand on voit le succès de J.K. Rowling et de Harry Potter, on se dit, les gens lisent encore.
Oui, ils lisent encore, mais que lisent-ils? Ils lisent l'histoire d'un garçon qui vit à Hogsworth, un petit sorcier, et qui a toutes ces choses dingues qui se passent autour de lui. C'est du fantastique sérieux, mais c'est différent du grand roman réaliste au sein duquel j'ai grandi. Oui, oui, ils lisent de la fiction pour adolescents. Et je l'ai dit dans une interview au Sunday Times au Royaume-Uni, que ce qui est devenu, je ne sais pas pourquoi, le titre de l'interview, j'ai donné une interview de 2 heures, j'ai dit, mais je ne sais pas si les millennials lisent encore. Et ça, c'est devenu le titre. Et sur mon compte Twitter, j'ai eu des milliers de millénials britanniques qui commençaient à m'attaquer, qui m'ont dit, Monsieur Ellis, moi je lis 12 romans par jour. Moi, j'ai eu un bibliothécaire qui m'écrit, mais non, il y a des millénials qui arrivent chez moi et qui lisent des tas de romans. Oui, c'est merveilleux. Bon, c'est bien que les millénials lisent des romans, mais je ne connais personne en Californie, j'en connais aucun millénial en Californie qui lit un putain de bouquin. Donc peut-être que c'est différent au Royaume-Uni, je ne sais pas. Les ventes de livres sont vraiment ici en France, je ne sais pas. Mais ils ne lisent pas tellement sous Kindle. Hein.
Mais pourquoi, c'est vrai, quand on voit ce grand succès Harry Potter, pourquoi vous dites que c'est pas terrible? Vous m'avez même dit que c'était la fin de la civilisation quand vous voyez des young adults faire la queue pour le prochain Harry Potter. Pourquoi la fin de la civilisation?
Je pense que c'est la fin de la civilisation quand on voit des adultes lire Harry Potter. C'est pas la fin de la civilisation quand des jeunes font la queue pour ça. Je crois que c'est une des choses les plus enthousiasmantes qui se produisent au cours de l'époque Harry Potter. C'était les files d'attente à minuit, le jour d'avant la sortie du livre. Et c'était des livres très longs, 600 pages. 700 pages, c'est fantastique. Mais est-ce que c'est passé à autre chose? Je sais pas. J'ai essayé deux fois de lire Harry Potter. Je voulais faire partie du truc. Je voulais faire partie de l'enthousiasme. Je voulais pas être laissé derrière. Et j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu rentrer dedans. C'est des livres écrits pour enfants, pour adolescents, pas pour des gens avec une expérience d'adulte. Je peux pas regarder Game of Thrones. Non, j'y arrive pas. Je dois l'avouer.
Brett Easton Ellis, The Outlaw.
The Outlaw. I never meant to be.
Non, j'ai jamais voulu l'être, alors la loi, non. Je trouve ça tellement intéressant parce que je suis tellement solitaire. Moi, je n'ai pas besoin de ce genre de réputation. Si je le voulais, je serais beaucoup plus dans la publication des choses au cours de la dernière décennie. Et quand on m'appelle hors la loi, c'est très étrange. Mais peut-être que je le suis.
Alors, c'est drôle parce que votre ancien compère, Jay McInerney, qui est venu faire cette émission, quand il parle de vous, il a ces phrases. Il dit « Brett a toujours eu la vision la plus sombre, la plus cynique de nous tous, alors que la mienne est au fond plus romantique. » Brett est mon alter ego, mais mon alter ego monstrueux. Je me demande comment il fait pour dormir la nuit. Qu'est-ce que vous lui répondriez ?
C'est très facile de dormir la nuit. Moi, je me sens très libre. Je me sens que j'ai exprimé ce que j'avais à dire. Mais m'étant exprimé, je dors la nuit. Mais Jay a raison, il a totalement raison. On savait toujours ça. Pourquoi est-ce qu'on nous mettait ensemble? Pourquoi est-ce qu'on nous met dans le Brat Pack? Moi, j'étais influencé par le punk, la nouvelle vague, la scène de Los Angeles du début des années 70. J'étais influencé par le minimalisme. Le minimalisme, c'était quelque chose qui a véritablement influencé Moins que Zéro. Jay est un romantique. Et moi, j'aime ses bouquins. J'ai toujours été fan de Jay. Je suis un de ses fans. Il était sur mon podcast récemment. Mais on s'est toujours demandé pourquoi on était ensemble. Parce qu'on était jeunes, nos livres étaient semblables, une version de New York, une version de Los Angeles. Mais Jay, c'est un romantique, c'est Fitzgerald.
Il était dans votre podcast, il était aussi dans Lunar Park, vous en aviez fait un personnage un peu vain. Il vous en a voulu un petit peu?
Ouais, il m'en voulait un petit peu. Deux, trois choses. Il était en colère parce que j'utilisais un personnage de son livre, L'histoire de ma vie, et le narrateur Alison Poole. Et j'ai écrit que Alison Poole sortait avec Patrick Bateman, mon personnage. Et je vous garantis que si vous lisez le bouquin, que ça s'est pas bien passé. Et Jay n'était pas très content de ça. Il était très en colère. Et puis, on en a parlé. Et bon, et quand j'ai mis Jay en tant que personnage dans Lunar Park, ça l'a fait chier. Hein. Vraiment. Et puis, on en a parlé. Et il s'est rendu compte que c'était le personnage normal, le personnage sympathique. Et moi, j'étais le salaud. C'est moi qui allais pas bien. Mais vraiment, il se plaignait à la vieux bourgeois, quoi. Il a dit, mais je veux pas que mes enfants lisent ce passage où tu parles de ta Porsche et je commence à prendre de la cocaïne. Ben non, bon, ça va.
Mais un écrivain a tous les droits, y compris mettre ses amis dans les romans.
Vous savez, l'écriture, c'est une tentative de contrôler le monde. C'est une tentative de contrôler le monde. Écrire, c'est une tentative de clarifier et de comprendre ses sentiments au moment. Pourquoi suis-je dans une telle confusion? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je ne peux pas dépasser quelque chose? L'écriture devient de cette façon-là un exorcisme.
Alors, vous l'avez dit, vous continuez à lire. Je crois que vous lisez à peu près 100 romans par an. Vous êtes notamment, et ça fait vraiment plaisir, vous êtes très attentif à la jeune génération, notamment d'auteurs américains. Vous parlez de Emma Klein, notamment. Et vous parlez d'une jeune fille dont vous dites beaucoup de bien, qui s'appelle Otessa Mosfeg. qui a écrit Aileen et qui a écrit Homesick for Another World. Vous pourriez nous dire un mot de cette jeune fille dont on dit qu'elle est un peu Bret Easton Ellis tout en étant l'anti-Bret Easton Ellis, comme le négatif du positif, très jeune d'ailleurs aussi.
Oh, well, Otessa Moshfegh is a writer who came on my radar.
Elle est entrée sur mon radar quand elle m'a contacté, vraiment comme ça par hasard. Je l'ai rencontrée à une soirée et elle m'a donné un exemplaire de sa collection de nouvelles, Homesick of the World. Et elle a été très influencée par moi. Elle était très admirative. Bah oui, c'est très flatteur, évidemment. Et on voit l'influence que j'ai eue sur ces nouvelles. Dans My Year of Rest and Relaxation, qui est c'est un personnage à la Bret Easton Ellis. C'est une fille qui est un peu déprimée, qui va dans les soirées. Elle essaie de s'en sortir sans quitter son appartement en prenant un peu des médicaments. Elle veut dormir pendant un an. Et quand cette année se termine, bah, c'est le 11 septembre. Donc c'est un livre un peu ironique. Elle a un talent immense et c'est un de mes jeunes écrivains très favoris. Tommy Orange a été sélectionné pour le Pulitzer et Emma Klein, bien sûr. Moi, je suis très, très intéressé par les jeunes écrivains et j'aime bien en parler sur mon podcast.
Et est-ce que ça vous plaît de faire école comme ça? Vous avez dit c'est flatteur, mais est-ce que ça vous plaît de dire bah oui, au fond, maintenant, je suis devenu un écrivain qui a fait école?
Il faut que je dise. C'est difficile pour moi de le voir. D'autres gens peuvent le voir, mais pour moi, c'est difficile. Moi,
par exemple, My Year of Rest and Relaxation de Tessa Marshall,
est-ce que c'était... Je ne savais pas que c'était tellement influencé par moi. Moi, j'avais déjà lu le livre, et je m'en suis aperçu quand c'était dit dans une interview.
On écoute, Bret Easton Ellis, votre premier choix musical. Vous avez choisi un titre de Nada Surf, Beautiful Beat. On l'écoute et on en parle.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Nada Surf, Beautiful Beats. C'est le premier choix musical de Bret Easton Ellis. On passe une heure avec lui. On est dans un hôtel à Paris, pas exactement dans une suite impériale, mais presque. Effectivement, je fais référence à un titre de roman de Bret Easton Ellis. Il est en survêtement noir. J'espère que ça se passe bien pour lui. Ça va, Bret Easton Ellis?
Is everything okay?
Yes.
Everything is surreal.
Oui, tout va bien. C'est surréaliste. Tout est surréaliste quand on fait une tournée de présentation d'un livre. Ça n'a rien à voir avec l'écriture du livre et ça n'a rien à voir avec votre vie réelle.
Alors,
je me suis réveillé à Londres, maintenant je suis en France et je serai à la télé ce soir.
Bah super. Donc vous avez choisi Nada Surf, Beautiful Beat. Pourquoi ce titre-là ?
Moi, je suis tombé amoureux avec ce morceau-là. C'était au milieu des années 90. Ils étaient là depuis longtemps. Il y avait un single qui s'appelait Beautiful Beat. J'ai beaucoup aimé ce morceau. Mais ce n'est que récemment que j'ai trouvé cette version live avec le Brandenburg Orchestra. Qui est absolument fabuleux, et j'y ai pensé beaucoup au cours de cette dernière année. Et j'étais juste dans ce moment-là, je me suis dit, je veux que ce morceau soit joué
en France Culture. Parfait. La musique, elle est toujours importante dans votre travail. Je me souviens que dans Less Than Zero, d'ailleurs, c'était un titre du premier 45 tours d'Elvis Costello. Est-ce qu'elle est toujours aussi importante dans votre travail? Est-ce que vous écrivez en musique?
Non. It's different. I'm 55.
Non. Vous savez, j'ai 55 ans, hein, c'est différent. C'est très différent. Ma relation à la musique est très différente. Mais j'ai toujours ce besoin d'écouter de la musique nouvelle. Ça, c'est pas parti. Je suis très, très sérieux dans le fait de trouver de la musique que j'aime. Parce que la bonne musique, c'est une source d'inspiration. Ça améliore votre journée et ça rend plus facile la conduite dans la circulation de Los Angeles. Et mon boyfriend qui a 32 ans dit que moi je suis beaucoup plus aventureux que lui en cherchant de la musique. J'aime beaucoup le gangster rap, la musique country. Ariana Grande, Drake. Moi, je cherche partout. Mais cependant, le lien que j'avais quand j'étais plus jeune, ça s'est évaporé. C'est plus aussi important. Je ne suis plus enthousiasmé.
Excited to write, for example, it's not.
Mais non, non, j'ai jamais écrit. J'ai jamais écrit en écoutant de la musique. Ça s'est arrêté. Ça aurait pu être une des premières des choses à l'époque de moins que zéro. Mais c'est très difficile d'écrire quand on entend de la musique. Je peux pas le faire, moi.
On va faire un petit jeu, si vous en êtes d'accord. Je vais prendre quelques-uns de vos titres de romans et vous demander quelle serait la musique, soit qui correspondait à l'époque, ce que vous écoutiez, soit la musique que vous mettriez dessus. Si je vous dis White, par exemple, la musique qui irait avec White?
Country music. Oui. It would be Jason Isbell.
Jason Isbell. Casey Musgraves.
Simpson. It would be any number of alternate country. I think it's called.
C'est la Miranda la country Lambert, alternate.
These have been the artists that.
Ce sont les artistes qui ont signifié le plus pour moi au cours des dernières années. Donc pour White, ce serait cela.
Less Than Zero.
Less Than Zero would probably be
moins que zéro, Elvis Costello.
Imperial Bedrooms, that record.
Les suites impériales, oui, ce disque.
I would think a lot of like new wave groups in the time, the Go-Go's.
Yeah. Les Go-Go's, oui.
Zombies.
Les groupes new waves.
Zombies, I think a lot about Don Zombie. Henley, The Boys
Don
of
Henley.
Summer.
Don Henley.
I think a lot about that song that came out, I think, in 1984.
Je crois que ce morceau a été publié en 83-84, quand ce livre a été finalisé. Quelque chose de tremblotant, de LA, de, sur un ton mineur, un peu triste.
American Psycho.
Oh, American Psycho. What was I doing during those?
Qu'est-ce que je faisais pendant ces trois années-là?
Well, there was a band that
eh bien, il y avait un groupe que j'aimais bien, qui s'appelait The Replacement, un groupe américain. Je les écoutais beaucoup en 86, 87, et je suis allé les voir en concert à plusieurs reprises. Ce morceau-là. Mais ça vient un petit peu plus tard. Mais je dirais ce groupe-là.
Glamorama.
Britpop.
Yes, which one?
À la pop britannique.
Oasis.
Non, en fait, Primal Scream. C'était un petit peu avant, 80-82. Mais j'écrivais déjà Glamorama. Mais Pope.
Exactly.
Blur. Et bien sûr, Oasis. Comment est-ce qu'on peut écrire un roman sans être influencé par Oasis? Oasis a été mentionné.
Yeah.
U2 aussi.
Lunar Park.
Lunar Park.
Je dirais d'autres trucs que j'écoutais. J'écoutais beaucoup Warren Zevon.
Werewolves of London and some of his epic ballads.
Et certaines de ses ballades.
The French Inhaler, Accidentally Like a Martyr, and of course
et
I was listening to some weird reason.
J'écoutais pour des raisons très bizarres cette chanson de Elton John. Et je l'ai fait passer beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a hanté. Et même je crois que je l'ai mis quelque part dans la fin de mon.
Et suite impériale, Imperial Bedrooms.
The National. The National was what
le groupe The National, c'est ce que j'écoutais. Plutôt beaucoup et assez sans cesse à l'époque où j'écris le livre. The National et aussi Bruce Springsteen, assez étonnamment, le disque Magic, avec certains morceaux qui étaient à un moment où vous avez de la crise de la quarantaine.
Très bien.
Avec The Girls in the Summer Club.
Merci, Bret Easton Ellis. Alors, un mot de White, donc c'est un essai, hein, enfin, une sorte de forme totalement hybride. Mais on va dire un essai qui paraît chez Robert Laffont, qui est traduit de l'anglais par Pierre Guglielmina. C'est pas un roman, mais c'est un ensemble radical, remuant, grinçant, parfois très drôle, dont la matrice est ce podcast hein, que vous animez depuis 2013 et qui systématiquement s'ouvre sur une sorte de journal de bord où vous racontez ce qu'est en train de devenir l'Amérique et globalement le monde occidental au fond, puisque ce qui arrive en Amérique souvent arrive dans le reste du monde, occidental en tout cas, et pour vous c'est assez scary ce qui arrive. Est-ce que c'est la faute à Donald Trump? Eh bien, pour vous, pas du tout, car vous ne mangez pas de ce bashing-là. D'ailleurs, dans le roman American Psycho, qui racontait les aventures d'un serial killer de Wall Street, celui qui n'était pas encore président des États-Unis, mais déjà entrepreneur à succès, était cité plus de 40 fois par votre héros Patrick Bateman, et plutôt comme un modèle à suivre. « Somewhere, Patrick Bateman is smiling », avez-vous même tweeté le soir de l'élection, c'est-à-dire « Quelque part, Patrick Bateman sourit ». Qu'est-ce qui le faisait sourire à ce point?
Comme tout le monde le sait, j'ai effacé ce tweet très rapidement après l'avoir posté. Je ne voulais pas faire partie de cette conversation-là. Je ne voulais pas faire partie de ce narratif qui débutait cette nuit-là au sujet de Trump. Donc il y avait trop de nervosité dans l'air. Mon boyfriend s'était évanoui ce soir-là. Il a commencé à reprendre des produits
opiacés. Des drogues.
Et il a été pourtant clean pendant plus de 8 mois. Et ce que je voulais dire, c'est que Trump était le héros de Patrick Bateman. Trump était à la première d'American Psycho en avril 2000. Donc, il est toujours là. Je sais pas, moi, il m'a suivi vraiment en 2016. Bon, c'est clair que Patrick Bateman était très heureux lors de l'élection de Donald Trump si Patrick Bateman avait été un être humain réel.
En tout cas, il ne vous obsède pas comme la plupart de vos compatriotes en Californie, Trump. Vous, vous dites que c'est pas sa faute à lui, c'est la faute à la victimisation érigée en art, à la bataille identitaire que se livrent les communautés pour le pouvoir, hein, aux réseaux sociaux qui ont simplifié la pensée, qui ont inventé le culte de l'opinion et du lynchage numérique aussi. Il est question de tout cela dans White, c'est totalement décapant, d'autant, je le disais, que c'est raconté racontez comme un journal intime où vous convoquez votre jeunesse, vos films préférés, vos expériences à Hollywood, les conversations que vous avez avec vos amis ou avec votre jeune amoureux démocrate, hein, vous en parliez. Non, sans un humour ironique qui, visiblement, ulcère vos détracteurs, notamment ces milléniaux que vous appelez la Wussy Generation, la génération qui pleurniche ou chochote. Le livre est sorti aux États-Unis, commence à faire des vagues. Est-ce que ça vous a surpris ou est-ce que vous le faites précisément pour ça? Pour faire des vagues, parce qu'il faut que les choses soient dites et par un écrivain tant qu'à faire.
On peut pas écrire un bouquin juste pour faire des vagues. Moi, je crois que ce livre, où il y a beaucoup de critiques sur des films, je parle de l'écriture d'American Psycho, j'écris beaucoup sur Patrick Bateman, sur le making de Moins que Zéro, du film, je parle beaucoup de mes problèmes, j'écris sur Tom Cruise, Charlie Sheen, Kanye West. Et pourtant, il y a cette section sur les milléniaux qui a créé une controverse énorme. Et c'est étonnant parce que White est devenu le bouquin le plus controversé que j'ai écrit depuis American Psycho. Et la controverse était aussi dure au Royaume-Uni comme aux États-Unis sur deux, trois trucs, sur un chapitre sur les milléniaux. Et je pense que je peux écrire ce chapitre parce que je vis avec un millénial depuis une décennie et j'écris quelques généralités sur ce qui m'ennuie au sujet des milléniaux. Ce qui me charme chez eux, certains de leurs défauts, mais très certainement pas aussi cruels que ce qui s'est passé dans ma génération. Moi, j'ai écrit sur ma génération dans Moins que Zéro, ou dans les lois de l'attraction, ou dans American Psycho. Je suis assez sympathique envers eux. Et je termine sur une note sympathique. Je comprends. Ils sont en réaction à ma génération. Ils sont en réaction au nihilisme, au négativisme, à la coolitude de la génération X.
Est-ce qu'ils sont pas simplement plus moraux, en fait, que vous ne l'étiez?
Moraux par rapport à quelque chose, à un défaut. Quasiment puritain. Et à nouveau, c'est en résistance à la génération X qui était très ouverte en termes d'expression de soi-même, sexuelle, nihilisme, en créant un art violent. L'art de la génération X, c'était pas vraiment quelque chose d'enthousiasmant, c'était sombre, c'était ironique. Et la génération X, ben, ce sont des gens contre lesquels les milléniaux se rebellent. Ils veulent que l'art leur apprenne des choses, mais c'était certainement pas ce qu'attendait la génération X. Je pense que ce moralisme échappe à tout contrôle et on entre dans ce qu'Obama appelait le peloton d'exécution circulaire contre tout ce qui n'était pas dans le politiquement correct. Par exemple, on peut poursuivre une cible qui le mérite, mais d'autres cibles qui ne le méritent pas, mais qui pourraient être dans un champ semblable. Mais de toute façon, on les tue. Et ça, c'est un exemple du puritanisme qui vraiment balaye tout le pays et qui met des gens totalement innocents dans des problèmes fous. Par exemple, il y a aussi des gens qui sont les victimes de quelque chose qui s'était passé dans ce film. Vous savez, l'invasion des body snatchers.
Oui, je rappelle pour les auditrices et les auditeurs que la génération X, hein, les Gen X, comme dit Bretton Ellis, c'est la génération des gens qui sont nés entre à peu près 1966 et 1976. Je vous cite Bretton Ellis dans White. « Chacun doit être le même et avoir les mêmes réactions face à n'importe quelle œuvre d'art, n'importe quel mouvement, n'importe quelle idée. Et si une personne refuse de se joindre au cœur de l'approbation, elle sera taxée de racisme ou de misogynie. C'est ce qui arrive à une culture lorsqu'elle ne se soucie plus du tout d'art. » On en est là, vraiment. Alors comment vont faire, Bret Easton Ellis, les artistes? Et comment vont faire les Américains sans art? Puisque moi, je croyais que la liberté, c'était une valeur américaine par excellence.
C'était une valeur américaine, ça disparaît. La liberté disparaît dans l'art, principalement. Et c'est vraiment refroidissant d'être artiste aujourd'hui aux États-Unis et de voir ce qui est considéré comme acceptable. Acceptable? L'art acceptable? J'avais jamais entendu parler de ça. Ah oui, mon camarade, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Oui, camarade, il faut que j'apaise le public. Camarades, oui, il y a des divisions qui apparaissent dans les maisons d'édition. Ils cherchent dans les manuscrits. C'est comme en Chine, dans l'Union soviétique. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent heurter un lecteur trop sexuel, trop provocateur? Et Dieu préserve si quelque chose, si vous écrivez par exemple au sujet d'un jeune garçon musulman, d'une femme indienne ou d'un point de vue d'un jardinier hispanique, il faut faire attention, vous mettez les pieds, il vaut mieux pas le publier. Et même à la télévision, dans les studios, il y a des divisions de la diversité pour voir que tout le monde ressemble effectivement à ce à quoi il doit ressembler. Cette idée de ce que la population est faite. C'est très difficile, je pense, de s'aligner aujourd'hui avec le parti tel ou tel et d'être un artiste aujourd'hui aux États-Unis.
Et c'est tout à fait ironique, Bret Easton Ellis, parce que vous êtes en France, hein, on est en France pour enregistrer cette émission, Pays des Lumières, et je pensais, en vous écoutant, à Montesquieu, aux lettres persanes, à tous ces livres des Lumières du XVIIIe siècle qui ont quand même... Oui, fait avancer, fait progresser le monde, où justement, littérairement, l'une des astuces, c'était de se mettre à la place, par exemple, d'un trafiquant d'esclaves, ou se mettre à la place de quelqu'un qui n'était pas occidental, pour produire un regard plus libre sur l'Occident, ou pour faire parler un trafiquant d'esclaves ou un esclavagiste, et montrer comment il était ridicule. Et au fond, ce qui se passe aux États-Unis, ce que vous expliquez dans White, c'est qu'un écrivain ne pourra plus se mettre dans la peau d'un trafiquant d'esclaves, par exemple, pour dénoncer son discours, pour le ridiculiser par ce qu'il dit. Ce serait impossible, ça.
C'est dommage. Ça veut dire que la littérature ne sera pas écrite, des livres intéressants ne seront pas écrits. Et je me demande ce qui va se passer. Il y a tellement d'œuvres d'art extraordinaires de gens qui ne sont pas exactement ce qu'ils auraient dû être. Et ce sont des exemples de l'empathie. Je voudrais savoir ce que c'est que d'être dans les chaussures de quelqu'un d'autre, à la place de quelqu'un d'autre, essayer de sentir ce qu'il sent. Peut-être que ça m'ouvrira des horizons. Vous savez, il y a eu Scarlett Johansson qui voulait jouer le rôle d'une femme transgenre dans un film. Et soudain, il y a eu un tout petit tweet qui est soudain devenu une métaphore de l'appropriation culturelle. Je ne pense pas que Scarlett Johansson voulait faire quelque chose d'extraordinaire. C'était une femme des années 70, elle voulait faire quelque chose, mais ça a quasiment, la horde a tué ce projet et c'est considéré comme acceptable. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant aux États-Unis.
Aujourd'hui, American Psycho serait-il publié ?
American Psycho couldn't be published today.
Absolument pas.
Non.
Qu'est-ce qui gênerait ?
Where do we begin ?
Eh ben, où est-ce qu'on commence ?
Where do we begin ?
Où commence-t-on ?
Well, obviously,
à l'évidence, le sexisme, le racisme des personnages ne serait pas acceptable. Il devrait être puni d'une manière ou d'une autre. Il s'en sort avec ses crimes supposés, les descriptions de la violence, de la sexualité seraient mises en cause. Et bon, non, ça n'irait pas. Peut-être que ça pourrait être autopublié à la marge, mais pas chez un grand public, éditeur. Parce que j'étais très heureux que ça soit publié, parce que ça ne pourrait plus l'être aujourd'hui. Il faut se souvenir que non seulement ça a été publié par mon éditeur de l'époque, mais c'est un éditeur de meilleure qualité qui l'a publié. Mais moi, j'ai perdu tous mes anciens éditeurs quand ce bouquin a été publié. Et je pense que impossible que ce livre soit publié aujourd'hui.
Vous pensez quand même que c'est terrible ce que vous dites, Bret Easton Ellis, et c'est vrai qu'on a vu dans les facs américaines, par exemple, des textes d'Ovide, des textes de l'Antiquité, avec des trigger warnings, comme on dit, des avertissements. Attention, ces livres peuvent choquer. Vous pensez que c'est fini quand vous dites les livres pourront plus être écrits, ou que quand même c'est pas... Il y a quand même un espoir, et que ce livre White, il est aussi fait pour ouvrir les yeux des gens, qu'il va quand même y avoir un retour, quoi, d'une forme de résistance des artistes contre cet état impossible, insupportable.
Je ne sais pas. Parce que très certainement, la presse mainstream a été totalement opposée à ce livre et a voulu le tuer, l'assassiner. Ils ont vraiment tenté de le taire. Et il y a encore beaucoup de gens qui comprennent ce livre. Il y a une très très grande division, il y a un fossé culturel. Il y a des gens qui croient vraiment à ce nouveau canon, à cette notion d'art acceptable. Et ils tentent d'effacer certaines choses. Par exemple, décrocher des tableaux, voiler des sculptures, protester contre le manque de diversité. Il y a aussi dans l'université un effacement dans ce qu'on appelle le canon blanc. D'autres voix doivent être représentées indépendamment du fait qu'elles soient bonnes ou pas. Moi, je ne sais plus où nous vivons.
Merci Bret Easton Ellis, il nous reste 10 minutes. On écoute votre deuxième choix musical. Vous avez choisi The Tubes, Don't Touch Me There.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Nous sommes avec Bret Easton Ellis, il publie White chez Robert Laffont, son nouveau livre après 10 ans de silence éditorial. Pourquoi ce choix de The Tubes, Don't Touch Me There?
Je suis tombé amoureux de ce morceau, et c'était à la fin des années 70. Et c'est une parodie de Phil Spector, Wall of Sound. Mais c'est presque aussi bon qu'une vraie chanson, bien que ce soit parodique. J'y pensais beaucoup quand j'ai fait un podcast avec Paul Schrader, l'artiste de cinéma. Ne me touche pas là. C'était le bon morceau pour le podcast de Paul Schrader. Mais ça pouvait être un thème aussi pour le mouvement Me Too. Il y a quelque chose là qui est ironique et drôle sur où nous en étions à ce moment de puritanisme. Ne me touche pas là.
Voilà, le puritanisme, il en est beaucoup question dans White, hein, ce nouveau livre qui n'est pas un roman, mais une sorte de deux journaux de bord où vous racontez ce qui est en train de devenir l'Amérique, entre pruderie institutionnalisée, victimisation érigée en art, violence des réseaux sociaux aussi. Bret Easton Ellis, diriez-vous que vous êtes devenu un écrivain engagé? On aime bien ça en France, les écrivains engagés.
Non, parce que je ne suis pas politique. Mon petit ami est politique, mais moi non. Je n'ai jamais fait partie de la
politique. On peut s'engager sur des principes, on peut s'engager sur des causes, on peut s'engager pour la liberté d'expression.
Tout ce qui est liberté d'expression, liberté de parole, c'est ce qui m'a intéressé au cours de ces 4-5 dernières années. La politique, ça ne m'intéresse pas. Trump, son administration, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de sa politique. Je n'aimais pas Brett Kavanaugh. Je ne suis pas d'accord avec ses politiques aussi. Ce qui m'intéresse, c'est que tout soit dit.
Et
moi, j'étais, vous savez, du côté libéral. Et ça a changé. Et je ne me reconnais plus dans ce mouvement. C'est de ça que parle très certainement White.
Pour terminer, Bretton Ellis, j'aimerais qu'on dise un mot de Joan Didion, qui est très présente dans White, ce grand écrivain que vous adorez. Je vous cite, en 1980, je commençais le projet Moins que Zéro, qui allait culminer en 1985 avec la publication de mon premier roman, et j'avais puisé bon nombre de mes repères chez Joan Didion et dans le roman noir de L.A. Joan Didion, c'est l'auteur du White Album, hein, auquel fait référence votre livre. Elle a obtenu le National Book Award aussi avec ce très beau texte, L'année de la pensée magique. Je vais vous demander quel repère vous aviez trouvé chez Joan Didion. Et je vous cite encore, Bretton Ellis, et je m'arrêterai là. Bien des gens étaient en désaccord avec ses positions sur les questions sociales, mais son style et son esthétique lui ont permis de vendre tout ce qu'elle écrivait, et cette foi dans le style et la précision de son écriture ont effacé apparemment toute idéologie. C'était une réaliste, une pragmatiste, sensible à la logique et aux faits, mais avant tout une styliste, comme pour tous les grands écrivains, le style était le point qui vous permettait de décider du sens de son œuvre. » Par rapport à cette phrase de Joan Didion, j'aimerais savoir comment vous regardez le sens de votre œuvre. Et au fond, on a fait de vous l'écrivain du trash, de la violence, du sexe, de la drogue. Mais au fond, on parle peut-être pas assez de votre style. Est-ce que c'est ce qui compte au premier plan pour vous ?
C'est tout. Le style, c'est tout. Sans le style, il n'y a rien. Peu importe les personnages, peu importe le narratif, l'histoire, sans le style, il n'y a rien. Tous les grands écrivains ont un style. Et une des choses que j'ai apprises, ça vient d'une nouvelle, d'un roman de Joan Didion, et le sens du livre provient du style. C'est une actrice, elle a une année difficile, c'est la décadence de Los Angeles, et on a vu ces gens déjà dans d'autres livres, d'autres personnages. C'est ce qui pourrait être une version cliché de Hollywood, mais la façon dont Joan Didion l'approche de façon, avec son style minimaliste, très très peu de pages, on imagine l'actrice en train de perdre l'esprit en voyant les mots sur la page, ou les mots imprimés. Et je me suis rendu compte, quand j'ai lu ce bouquin à l'âge de 16 ans, le style, c'est tout, ça vend tout. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas entendre ça, mais sans style, il n'y a pas de livre.
Et votre style, à vous, et le sens de votre œuvre, vous en diriez quoi ?
Mon style, je voulais toujours être très clair. La clarté est importante, pensais-je, et je le pense toujours. Et s'il faut y avoir un narrateur qui raconte l'histoire, il faut que vous soyez le narrateur. Tout ce que j'écris est narré. Le personnage vous parle. Et je voulais toujours m'assurer que c'est un portrait extrêmement honnête de la personne. Peut-être pas la meilleure syntaxe, la meilleure grammaire. Si moi, je voulais écrire moins que zéro de façon plus élégante, j'aurais pu nettoyer un petit peu la voix de Clay. Je voulais pas être un prof d'université. Je voulais qu'il qu'il sonne comme un ado de 18 ans qui s'adonne à la drogue. Et c'est vrai pour tous mes narrateurs, y compris le Bret Easton Ellis de Lunar Park. Le style dépend toujours du narrateur du livre. Patrick Bateman, ah oui, très différent de Clay, très différent de Ward, de Glamorama.
Et vous qui avez toujours mis tellement de temps à écrire vos livres, 5 ans, voire 8 ans pour Glamorama, est-ce que maintenant vous arrivez à déterminer quel était le sens de votre œuvre? Et je vous demande ça parce que vous parlez du sens de l'œuvre de John Didion, le sens de l'œuvre de Bret Easton Ellis. C'était quoi maintenant? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez passé autant de temps sur ces livres?
Pourquoi est-ce que j'ai mis tant de temps sur les romans? J'aurais bien aimé ne pas passer autant de temps. J'aurais aimé pouvoir les écrire plus rapidement, mais ils prennent le temps qu'il faut. Et je n'ai aucun regret à avoir passé 8 ans sur Glamorama. Ça devait être fait. J'étais engagé. C'était un projet passionnant. C'était super à écrire. Et j'ai passé encore un an et demi de plus à le promouvoir, ce livre. Et ce livre ne s'est pas relié à son public de la façon dont je pensais qu'il le ferait. Mais je n'ai jamais pensé qu'American Psycho trouverait un public. Et j'avais tout faux. Et donc, les écrivains ne savent absolument pas quoi que ce soit au sujet de l'avenir de leur bouquin. J'étais extrêmement engagé dans l'idée de certains de ces livres. Ça prend du temps.
Et le sens.
Vous savez, les romans, c'est pas facile à écrire.
Et le sens de tout ça. Le sens de ces romans.
Mais je sais pas quel est le sens de tout ça. Je sais pas. Le sens, c'est que j'ai besoin d'imaginer des choses à mon sujet, de me soulager de cette confusion, de cette douleur. Et c'est là où commencent ces livres. Certains de ces livres sont au sujet de mon père et de ma relation difficile avec mon père. Glamorama, certainement. Je m'en suis pas rendu compte avant. Vous savez, c'est un thriller au sujet d'un père qui veut se débarrasser de son fils pendant qu'il est candidat à la présidence. Et il voudrait remplacer ce fils-là par un fils meilleur. J'ai travaillé pendant 8 ans sur ce livre. Ça m'a pris ce temps-là, il n'y a que les 2 dernières années, que je me suis rendu compte à quel point ça avait un lien avec moi-même. Et avec Lunar Park aussi, c'était l'exorcisme de mon père. Et maintenant, j'ai beaucoup de sympathie pour lui, beaucoup plus que j'en ai eu précédemment. Je le comprends beaucoup mieux à l'âge de 55 ans que lorsque j'avais 35 ans. Je comprends sa douleur, ses déceptions. Je ne les comprenais pas quand j'étais plus jeune.
C'est une très belle réponse. Merci beaucoup, Bret Easton Ellis, pour avoir passé ce temps avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, White, traduit par Pierre Guglielmina, publié chez Robert Laffont. On se quitte en écoutant votre dernier choix musical, c'est Control Freak de Copeland. En 2 mots, pourquoi ce choix, Copeland?
Je l'ai choisi parce que le refrain, c'est You're freaking me out. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui ne se contrôle plus. Et c'est le message parfait pour le moment où nous sommes.
Merci beaucoup, Bret Easton Ellis. Thank you very much.
Thank you.
Et merci à Michel Zlotowski, votre interprète. But soon your head long enough to let it bite. 'Cause faith left me staring at the ceiling through the night. It's freaking me out. And when I fell asleep, it plagued my dreams. And 30 bits of glass have become my teeth. They were breaking each and every time I tried to speak. It's freaking me out. You're freaking me out. You're freaking me out. And I could run like a coward for the door, but I'll never get out. You're freaking me out. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Hélène Langlois et Élise Le à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et tweeter, podcaster pendant un an et même à l'infini sur franceculture.fr, cette émission spéciale avec Bret Easton Ellis. Dieu.